Bienvenue pour cette analyse des dernières actualités africaines. On s'appuie sur plusieurs articles d'Africa Press.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va explorer ensemble plusieurs sujets. Les défis climatiques, la gestion des ressources, les dynamiques économiques qui changent pas mal sur le continent.
Oui, bonjour. Et c'est vrai que les sources nous donnent une image assez complexe.
Ah oui.
D'un côté, on a l'urgence climatique. Elle frappe durement, ça pose des questions de justice, de responsabilité.
Mmh.
Et de l'autre, des initiatives économiques qu'on voit émerger, que ce soit dans l'or, l'étain ou pour moderniser le secteur minier. Souvent d'ailleurs dans un contexte géopolitique un peu tendu.
D'accord. Alors commençons par le climat justement. Ça a beaucoup fait parler ces derniers temps. L'Organisation météorologique mondiale a sorti un rapport.
Oui.
Qui décrit une année 2024 assez terrible pour l'Afrique.
C'est le moins qu'on puisse dire.
On parle de sécheresse record au Maroc. 6 ans de suite, vous imaginez?
Ça touche la moitié de l'agriculture là-bas.
La moitié, oui.
Wow.
C'est énorme.
Et à l'inverse, des inondations catastrophiques. Kenya, Tanzanie, Burundi, mais aussi en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale.
Des millions de personnes touchées, oui.
C'est dramatique.
Et ça nous amène à cette idée de dette climatique, non?
Exactement. Il y a une ONG, Action Aid, qui a sorti un chiffre assez fou. 36 000 milliards de dollars.
Pardon? 36 000 milliards?
Oui, c'est ce que, selon eux, les pays riches, les pays industrialisés, devraient à l'Afrique pour compenser les dégâts liés à leurs émissions passées.
C'est colossal.
C'est colossal, et ce qui est fascinant, c'est le paradoxe. Pendant qu'on débat de cette dette, les pays africains, eux, ils s'endettent.
Ah oui?
Oui, et à des taux très élevés. Parfois jusqu'à 9,8% pour financer leur propre adaptation au changement climatique.
C'est un peu le monde à l'envers quand même. Hein.
Complètement. Et comment c'est perçu sur place? Il y a une étude intéressante de l'université de Cape Town.
Oui.
Elle montre que la majorité des Africains, en fait, ils attendent d'abord que leur propre gouvernement agisse.
D'accord. Une responsabilité locale d'abord.
C'est ça. Mais, et c'est là le hic, les populations les plus vulnérables, ce sont aussi celles qui ont le moins confiance dans la capacité de leur gouvernement à faire bouger les choses efficacement.
D'accord. Donc une attente forte, mais peu de confiance. C'est un vrai nœud.
C'est un nœud de tension, oui.
Bon, ça nous conduit assez naturellement à la question des ressources. Souvent vu comme un levier
développement.
La Côte d'Ivoire, par exemple, on en entend de plus en plus parler pour l'or.
Ah oui, tout à fait. On voit un glissement
des intérêts.
Des compagnies minières, vous savez, comme Resolute Mining, Fortuna Mining, qui étaient peut-être plus dans le Sahel avant, elles regardent de plus en plus vers la Côte d'Ivoire. C'est perçu comme plus stable.
Et le potentiel est là.
Apparemment, oui. On parle de 600 tonnes de réserves. Et le pays affiche une ambition forte, atteindre 100 tonnes de production par an. C'est une vraie stratégie pour eux.
D'accord. Et ailleurs sur le continent, est-ce qu'on voit aussi des efforts pour mieux gérer ces ressources?
Oui, on peut prendre l'exemple de la République centrafricaine. Là-bas, ils essaient de moderniser leur secteur minier diamant, or, uranium, surtout que l'embargo Kimberley a été levé.
Mais ça doit pas être simple sur le terrain, hein?
Non, c'est clair. Les défis sont énormes. L'accès à Internet, l'électricité, c'est encore très compliqué dans beaucoup d'endroits.
Et au Rwanda, il se passe des choses aussi, il me semble.
Oui, le Rwanda est assez actif. D'un côté, ils ont signé un accord avec Singapour. C'est pour créer un marché carbone bilatéral.
Un marché carbone? C'est-à-dire?
En gros, échanger des crédits carbone liés à des réductions d'émissions pour financer des projets verts. Et de l'autre côté, un accord avec une société américaine, Nathan Trotter.
Pourquoi faire?
Pour créer une chaîne d'approvisionnement directe pour l'étain rwandais vers les États-Unis. Tout ça d'ailleurs dans un contexte régional assez complexe avec la RDC voisine.
Mais bon, cette quête de ressources, d'investissement, ça ne va pas sans difficulté, j'imagine. Certains secteurs doivent souffrir.
Oui, c'est le revers de la médaille. Prenez les hydrocarbures, le pétrole et le gaz en Afrique.
Oui.
Malgré près de 150 projets potentiels sur la table, le secteur peine vraiment à attirer les financements. La chute des prix du pétrole, la transition énergétique mondiale, ça pèse lourd.
D'accord. Et même des secteurs qui marchaient bien d'habitude.
Oui, même là. Le coton au Cameroun, par exemple, ils ont des rendements excellents, 1500 kilos à l'hectare.
C'est très bon, ça.
Très bon. Et pourtant, la production a chuté, presque 28% de baisse sur la campagne 2023-24.
Ah oui, quand même. Pourquoi?
Plusieurs raisons. Le climat, bien sûr. Des attaques de parasites aussi. Des jacides, ce sont des petits insectes. Et puis, des retards administratifs pour obtenir les produits pour traiter. Donc, un cumul de facteurs.
Et il y a aussi parfois un coût humain, non? Derrière certaines initiatives, notamment la conservation.
Oui, c'est un point très sensible qui est aussi abordé dans nos sources. l'ONG African Parks, qui gère pas mal de parcs en Afrique.
Oui, je vois.
Eh bien, elle a reconnu des défaillances graves. Il y a des accusations très sérieuses d'abus. On parle de torture, d'agressions sexuelles.
C'est terrible.
Oui, qui auraient été commis par certains de leurs éco-gardes contre des membres de la communauté Baka. C'était au Congo-Brazzaville, dans le parc d'Odzala-Kokua.
Et ça relance quel débat, ça?
Ça remet sur la table ce débat sur la conservation dite forteresse. C'est-à-dire créer des parcs en excluant les populations locales. Et ça pose évidemment la question de leurs droits. D'ailleurs, une autre ONG, Survival International, soutient les victimes présumées dans cette affaire.
On voit bien à quel point tout est lié en fait. Développement économique, justice climatique, droits humains, gestion des ressources. C'est un équilibre vraiment, vraiment complexe à trouver.
Exactement. Ce qu'on lit dans ces articles, c'est le portrait d'une Afrique qui fait face à des défis immenses. Climatiques, économiques, sociaux, c'est clair. Mais c'est aussi un continent qui innove, qui cherche des solutions, qui adapte ses stratégies. Cette tension permanente entre d'un côté le besoin d'exploiter les ressources pour se développer et de l'autre les urgences environnementales et sociales, elle est palpable.
Et alors que le Brésil se prépare pour la COP30 et appelle à repenser la gouvernance climatique mondiale.
Oui.
On peut se demander finalement comment l'Afrique va naviguer dans tout ça. Quelle voie choisir entre les modèles de développement, disons, plus anciens, et puis les exigences d'un avenir qu'on espère plus durable, plus équitable?
C'est sans doute la question clé pour les années à venir, oui. Un vrai sujet de réflexion.